garder le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Cube Radio.
Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société.
Cube Radio.
Cube Radio.
Vous écoutez Philippe Vincent Foisy.
À Sherbrooke, on a démantelé un camping, un camp, campement d'itinérants. Il est presque tout démantelé du côté de Sherbrooke. Et ça a rappelé ce qu'on a vécu l'année dernière avec le campement Notre-Dame, où il y avait de nombreuses personnes itinérantes. Dans Hochelaga, le 24 heures, a deux textes hier et aujourd'hui sur cet enjeu-là. Un an plus tard, on est allé à la rencontre de ceux et celles qui étaient dans ce campement-là. Que sont-ils devenus? On en parle avec Camille Dauphinet, chef de contenu politique et société au 24 heures. Salut Camille.
Allô, ça va bien?
Ça va, ça va. Un an plus tard, comment vont-ils les ex-campeurs, les ex-itinérants pour certains que tu as rencontrés ou que vous avez rencontrés aux 24 heures?
Oui, en fait, c'est mon collègue Guillaume Fess qui est allé à leur rencontre. Il a réussi à en repérer six, puis je te dirais, l'histoire varie beaucoup selon chaque personne. Autant on a trouvé des gens qui vivaient encore dehors à l'extérieur, d'autres qui avaient réussi à se créer des petites communautés ailleurs, puis d'autres qui avaient réussi à trouver un logement depuis. Donc vraiment, là, des histoires tout à fait différentes. Je peux t'en raconter une ou deux?
Ben oui, vas-y.
Qui m'a beaucoup marqué, là, moi, quand Guillaume m'a rapporté son reportage, c'est celle d'Alexandre, qui est un jeune homme de 21 ans, qui, lui, habite encore à l'extérieur, dans un boisé de la métropole. Il s'est construit une cabane dans laquelle il compte bien passer l'hiver avec des palettes de tôle, du contreplaqué, des bonbonnes de propane. Il s'est vraiment fait comme tout un setup. Et puis, c'est ça. Il s'enligne pour passer l'hiver là, puis... Il nous a dit quelque chose, Alexandre, que je répète parce que c'est ce qui revenait dans les témoignages de plusieurs personnes itinérantes. Il aimerait ça avoir un logement puis s'en trouver un, mais comme plusieurs, il n'en trouve pas parce que c'est trop cher ou c'est des logements où il se doute bien qu'il n'y a pas grand chance d'être accepté.
Ouais.
Donc ça, c'est un cas de figure, Alexandre. Après, on en a à tout l'opposé du spectre. Là, il y a un homme à qui on a parlé qui s'appelle Daniel Clermont qui, lui, ça faisait 20 ans qu'il était dans la rue l'année passée. Et puis, c'est au campement Notre-Dame qui a réussi à rencontrer un intervenant qui l'a convaincu à s'inscrire à Projet Logement Montréal. Puis aujourd'hui, il s'est trouvé un emploi, il travaille à l'organisme Cap Saint-Barnabé et il y a un appartement près du métro Jean-Talon. Donc vraiment, l'histoire des ex-campeurs, ça va d'un bout à l'autre du spectre, là, selon ceux qu'on a rencontrés.
Oui, puisque les gens que vous avez rencontrés aussi, c'est pas tous des jeunes. Hein. Des fois, on peut se dire, c'est tous des jeunes, ils sont là en camping, il y a des enjeux de salubrité, comme on disait. Il y avait des enjeux aussi de sécurité avec les possibles risques d'incendie. Mais quand on regarde tous ceux que vous avez rencontrés, ça change quand même le portrait de l'itinérance à Montréal ou ça donne une autre perspective du portrait de l'itinérance à Montréal.
Oui, tout à fait. Ce qu'on voyait, on avait beaucoup couvert le campement à l'époque où il était en place. Beaucoup d'hommes dans la cinquantaine, soixantaine, quelques femmes aussi, quelques jeunes également, mais effectivement, là, beaucoup d'hommes âgés dans la cinquantaine, soixantaine, oui.
Puis de façon générale, qu'est-ce qu'ils recommandent? Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple, à la ville ou au gouvernement du Québec? C'est quoi leur solution? Parce qu'il y en a, comme tu disais, dans ce campement-là, il n'y avait pas que du négatif. Là. Ça a permis à des gens d'être ensemble, d'assurer une certaine sécurité, de même faire un réseau et peut-être de s'en sortir. Alors que là, ils sont un peu plus isolés, chacun pour soi. Des gens, par exemple, là, tu parles d'une dame qui est en train de partager un peu sa vie entre une usine désaffectée, un appartement abandonné, à dormir dans un placard à côté d'une tank à eau chaude. Donc, c'est quoi les solutions qu'ils proposent, ceux-là qui l'ont vécu? Là?
Oui, c'est intéressant que tu dises ça parce que ils parlent tous du campement avec la nostalgie. Oui, de un, pour le sentiment de communauté. Puis de deux aussi, puis c'est là que ça en devient une recommandation pour la liberté qui a été apportée à ces gens-là. Parce que souvent, ce qu'ils déplorent, c'est que dans les refuges, parce qu'il y a des places dans les refuges où ces personnes-là pourraient aller, c'est souvent ce qu'on leur répond, mais il faut arriver à une heure précise. Tu peux pas laisser tes choses pendant la journée. Il faut que tu arrives à un moment puis à un lieu pour avoir une place. Il faut que tu quittes tôt le lendemain matin, t'es chacun dans ta chambre. Il faut penser que ces gens-là, une vie communautaire pour eux, c'est hyper important. C'est ce qui leur permet comme d'assurer leur sécurité, de se tenir entre eux, de se développer un réseau de gens qui les comprennent. Donc, c'est ce qu'ils trouvaient au campement. Puis je pense que donc une recommandation, là, si on peut dire, qui ressortait dans tous les témoignages, c'était ça nous prend des logements accessibles, puis des logements desquels on est quand même où on habite pour vrai, là, où c'est pas juste ah oui, tu peux rester là un petit peu dans un coin pendant quelques temps, mais après, il faut que tu quittes des endroits où ils peuvent se reconstruire un nouveau milieu de vie. Vraiment, là, le coût des logements et l'accès au logement, c'est ce qui revenait le plus. Il y en avait aussi qui disaient ben, il faudrait tolérer les campements. Il y aurait plein de façons de tolérer les campements et de les adapter là, d'une façon qui serait plus encadrée légalement. Je pense qu'au final, ce qui ressort de tous les témoignages, c'est qu'on veut pouvoir rester ensemble sans se faire constamment disperser parce que se tenir, c'est ça qui nous rend fort, bref.
Ouais, ouais. Puis les logements, comme tu dis, il y en a pas beaucoup. Les propositions de la ville, il y en a pas énormément non plus, là.
C'est ça, ben, puis c'est surtout que c'est très lent. Je donne un exemple. Parmi les gens qu'on a rencontrés, ben, il y a Jacques Brochu, qui, lui, le jour du démantèlement du campement, donc il y a un an aujourd'hui, s'était fait dire, on va vous trouver un logement social. En attendant, venez rester dans cette chambre-là. Un organisme l'a donc placé dans une chambre en attendant. Ça fait un an, puis il est toujours en attente de son logement social. Il est hyper prioritaire sur la liste, mais il l'a pas. Donc, malgré la bonne volonté qu'on peut sentir autant à la ville que dans les organismes, mais il reste qu'il semble que c'est très long et complexe, puis que les gens qui ont besoin de ces logements-là, puis qui ont toutes les raisons du monde d'y avoir accès, pour une raison X, arrivent comme pas à les avoir.
Ouais, puis est-ce qu'il y a un sentiment que ça pourrait revenir? Tu sais que là, on l'a vu, par exemple, à Sherbrooke, ça a été démantelé cette semaine, là, où c'est en train de l'être, là, c'est pas complètement réglé non plus là-bas. Est-ce qu'à Montréal, tu sentais ou vous sentiez sur le terrain que il y en a qui se disent c'est un peu inévitable là, qu'on revienne à ce qu'on a vécu, à revivre un campement d'ici quelques mois, quelques années?
Ce qu'on entend plus, c'est que ah ben maintenant qu'ils nous ont montré qu'on peut plus être ensemble sans qu'on se fasse disperser, parce qu'il y en avait eu un autre tout de suite après, là, le campement de Greenberg, c'était aussi fait disperser, ben ils disent maintenant on se cache, un peu comme Alexandre dont je parlais tantôt, qui lui, ben il se fait cacher dans un boisé seul, puis c'est ça qu'il fait. Donc je dirais plus que ça va être plus caché puis plus isolé, ce qui était le cas avant aussi. Là, il y a toujours eu des campements de ce type-là dans les années récentes à Montréal. Mais un gros campement comme il y a eu à Notre-Dame, il n'y en a pas eu cette année. Puis le précédent avait parti en juillet, novembre, là, c'est les mois où il était très fort. Cette année, on l'a pas eu. On n'a pas eu un retour, probablement parce qu'ils se doutaient qu'il allait se faire disperser assez rapidement, qu'il y aurait peut-être moins de tolérance. Mais comme tu dis, dans d'autres villes, ça se voit. À Sherbrooke, il y en a eu un. Là, je n'ai pas été sur place, mais on m'a dit qu'il avait terminé d'être démantelé finalement le tard en soirée hier.
Okay.
Donc, c'est ça, les administrations souvent ne laissent pas ça perdurer pour l'hiver. Donc, je pense pas qu'on s'enligne vers quelque chose comme les grandes villes américaines où il y a des campements comme quasi permanents.
Ouais.
Notre hiver l'empêche un peu. Là.
Camille Dauphinet du 24 heures, merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut, au revoir.